Christ est, nous a dit qu'il est descendu. Il dit, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Ben oui, Christ est descendu du ciel sur la terre. Il a été crucifié. Il a été mis en terre. Il a visité le séjour des morts, me dit 1 Pierre. Il est ressorti vainqueur. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et maintenant, il a reçu de la part du Père honneur, puissance, gloire. Et maintenant, il est prêt à nous bénir, chacun d'entre nous, en nous donnant des dons. J'aime bien le chant que l'on chante. Peut-être vous pouvez m'aider même. Tu viens du ciel, vous connaissez, sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Vous comprenez ça? Christ, pour vous, pour moi, il est descendu du ciel. Il nous montre la voie. Il a payé sur la croix pour moi. Il est descendu dans la terre, aux régions inférieures de la terre. Il a été visité les esprits méchants en prison et il est ressuscité. Il est maintenant assis à la droite du Père. Il est le grand vainqueur. Et quand il vous a incorporé à l'Église, il vous a donné l'Esprit, non seulement l'Esprit, il vous a fait des dons. Il est riche. Il est tout puissant et il vous a fait des dons. Pourquoi il vous a fait ces dons-là? Pour que vous puissiez les mettre à l'œuvre dans le service de Dieu, dans son royaume. Chaque croyant, habité de l'Esprit, équipé d'un don spirituel, est membre du corps de Christ. Et par conséquent, il est à la fois nécessaire au corps. Chacun d'entre vous, vous êtes à la fois nécessaire au corps et à la fois dépendant du corps. Il n'y a pas personne ici qui a tous les dons. En tout cas, je ne pense pas. Moi, il y en a qui pensent qu'ils ont tous les dons spirituels, non? Il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Moi, je suis sûr d'une chose. Je ne les ai pas toutes. Il m'en manque un paquet. Mais Dieu, les dons qu'il nous a donnés, ils sont pour être placés au service de son peuple. Et inversement, les dons qu'il vous a donnés sont utiles à moi comme à tous les autres membres du corps de Christ. Parce qu'ensemble, nous formons un corps. Nous sommes des membres. Nous avons des fonctions différentes. Le corps, il y a une variété de besoins et ça l'exige un service à travers une variété de dons. Dieu a commencé par faire un équipement personnel de chaque chrétien. Mais là, il continue à partir du verset 11. Non seulement il a donné des dons de personnes, et si Normande peut me mettre la notion des dons spirituels, non seulement Dieu nous a équipés chacun d'un don spirituel, en montant dans le ciel, il a équipé l'Église de personnes aussi, de dons. Je vais les appeler des personnes dons. Alors, d'une première phase, il y a un équipement personnel à chaque chrétien, mais d'autre côté aussi, il y a un équipement communautaire de personnes dons. En plus d'avoir donné des dons spirituels, Christ a fait des dons de personnes. Voyez-vous, au début de l'Église, qui est le premier acétate, Dieu a commencé par donner des dons spirituels à l'Église universelle, à toute l'Église en paquet. Et pour commencer, il a commencé par des dons qu'on va appeler de fondement, pour le fondement de l'Église. Et pour le fondement de l'Église, il a donné des personnes dons. Il a donné des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes aussi, on l'a dans l'autre section. Et pour le fondement de l'Église, il a donné des dons personnels qui sont souvent différents de ceux que l'on a aujourd'hui. Je les ai appelés des dons signes. Il a commencé par donner des dons de miracles, de guérison, de secours, de gouvernement, de diverses... Ça, c'était des dons signes pour le fondement de l'Église. Mais en plus, si on passe à la deuxième, non seulement il a donné à l'Église universelle des dons, mais il a donné à l'Église locale, ce que nous sommes, on peut aller à l'autre, d'autres dons. Et il va donner des dons, et il nous mentionne dans le texte, dans le verset 11, et il a donné les uns comme apôtres. Je ne sais pas si vous réalisez que là, il n'a pas dit, il a donné le don de miséricorde, ou il a donné le don d'enseignement. Mais il a dit, il a donné les uns comme, il a donné des personnes, il a donné des dons de personnes, il a donné des pasteurs, des docteurs. Alors, j'attends toujours l'Église locale, c'est ça? C'est la prochaine? Ouais, les dons spirituels donnés à l'Église universelle, c'est ce que je vois? Puis il y a une deuxième qui dit les dons spirituels donnés à l'église locale. S'il y en a un autre. OK. Merci. Mais, c'est pas... Alors, ça, c'était l'Église universelle qu'ils ont montré. Il nous en a donné aussi à l'Église locale. À l'Église locale, il va commencer par dire il a donné les uns comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Et là, il va donner des dons. Il a donné aussi des dons de personnel. Il y en a qui ont des dons de parole, que ce soit de prophétie, d'enseignement, d'exhortation, de sagesse, de connaissance. Il y en a d'autres qui ont donné des dons de service, que ce soit ministère, partage, miséricorde, discernement, interprétation. Mais j'aimerais juste que l'on voit, il a donné deux sortes de dons. Il a donné des dons personnels, des dons spirituels, et il a donné à l'Église locale des dons de personnes, des personnes dont... Oh, les voici. Et Paul, ici, dans Éphésiens chapitre 4, il nous parle de ces personnes dont. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et là, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, etc. Des dons de personnes, en plus que des dons personnels. Et il a donné, il dit, à l'église locale, des pasteurs, des docteurs. Ce sont des bergers, des enseignants de l'église locale qui vont, il nous est dit, qui vont entraîner les gens, qui vont être des entraîneurs, qui vont être des équipeurs pour les croyants. Et il donne aussi des évangélistes, on peut le placer, l'église universelle, l'église locale. L'évangéliste, il peut soit agir au sein d'une église locale ou à l'extérieur, mais il y a la particularité spéciale de partager l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Alors souvent, ça va déborder de l'Église locale. Mais pourquoi est-ce qu'il a donné ces personnes-là? C'est pour le développement de l'Église, pour sa pérennité, pour sa poursuite en santé de l'Église. Il nous a dit, il les donne, au verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des croyants, de sorte que chaque croyant, chacun d'entre vous, vous soyez bien formé, bien équipé pour servir Dieu, selon votre potentiel. Le mot perfectionnement est catartismos. Il était utilisé au 1er siècle pour la chirurgie. Quelqu'un qui avait un os cassé, puis on le redressait. Alors, il y avait des médecins qui redressaient les os, et c'était pour, bien entendu, pour leur perfectionnement, pour que la personne puisse travailler au mieux, retrouver sa pleine force, puis être équipée au maximum. On utilisait dans le texte en Matthieu chapitre 4, me semble, verset 21, dit que Simon et André réparaient leurs filets. On utilisait ce mot-là pour des filets de poisson, pour les réparer. Pourquoi est-ce qu'on répare des filets? Pour les rendre le plus efficace possible, pour les utiliser le mieux. Les pasteurs et docteurs sont là pour vous équiper, pour que vous puissiez servir le Seigneur avec votre plein potentiel. Il est employé aussi dans Galates, chapitre 6, verset 1, ce mot catartismon. Il dit, si un frère vient être pris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, ça dit, redressez-le, même mot. Replacez-le sur ses rails, rééquipez-le à nouveau pour qu'il puisse continuer à servir le Seigneur avec son plein potentiel. Trois appels que Dieu fait. Un appel à l'unité de la foi. Un deuxième, un appel au service. Chacun d'entre vous, que vous soyez un individu qui a reçu des dons spirituels ou que vous soyez une personne que Dieu a donnée à l'Église, chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer dans l'Église et Dieu vous appelle à vous engager dans la communauté chrétienne selon vos dons, selon vos appels. Chaque croyant est appelé à servir, à s'investir dans le royaume de Dieu parce qu'il a été équipé pour le bénéfice de toute l'Église. Voyez-vous, Dieu voit l'Église, je dirais, comme une équipe, une grande équipe où il y a des joueurs, il y a des entraîneurs. Et il s'active au centre du monde, puis les yeux du monde regardent cette équipe-là et est influencé de façon positive. Ça, c'est ce que Dieu voit. Il voit que c'est le monde qui devrait regarder les chrétiens vivre et être excité. Puis dire, youhou, bravo, lâchez pas. Puis moi aussi, j'aimerais ça participer avec vous autres. Il semble souvent, par exemple, que l'Église ressemble plus à une foule de spectateurs qui ont désespérément besoin d'activité, mais qui sont en train de regarder une vingtaine de zélés ici et là, sur la glace, si je peux dire. Et ces gens-là, ils sont donnés au maximum, puis ils ont grandement besoin de repos. L'Église, elle voudrait qu'il n'y ait pas personne dans les estrades, mais que tout le monde soit à l'œuvre. Et bien souvent, on regarde l'Église avec beaucoup de personnes dans les estrades qui regardent quelques-uns être à l'œuvre. Et des fois, ils vont tomber et vont dire, « Hey, t'as tombé, lève-toi et puis on va y marcher. » Mais on a besoin que toute la foule soit sur le terrain. Ça, c'est ce que Dieu veut arriver à l'Église. Pas avoir des spectateurs, pas avoir des gens qui assistent à l'Église, mais des gens qui participent parce qu'ils sont appelés, chacun d'entre eux, parce que Dieu a investi entre eux, sont appelés à servir. Et finalement, quel est le but de servir? Bien, c'est un troisième appel, un appel à la maturité. Dieu a donné, l'objectif de Dieu en donnant les dons spirituels aux chrétiens, puis en donnant des personnes dons à l'Église locale, le but de ça, c'est édifier le corps de Christ, développer la maturité chrétienne. Et c'est ces grandes phrases du verset 13 à 16, là, on dirait qu'il n'y a pas de point là-dedans, mais c'est tout attaché l'un à l'autre. Mais si je peux résumer simplement ça, Dieu nous a appelés à la maturité. Il nous a appelés à développer la maturité chrétienne. Et cette maturité chrétienne-là est un concept qui n'est pas individuel, il est un concept collectif. C'est que tous nous croiserons à tous égards jusqu'à ce que nous soyons tous, verset 13, parvenus à l'unité de la foi. C'est quelque chose où on est tous ensemble. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et il mentionne en réalité dans ces versets-là trois critères. Trois critères de maturité. Comment est-ce qu'on sait si l'Église baptiste évangélique de Beauport est mature, elle manifeste la maturité? Quels sont les critères de maturité d'une Église locale? Bien, il dit premièrement, dans le verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Ça, c'est un critère de maturité. L'unité de la foi et l'unité de la connaissance de Christ. L'Église, elle doit manifester sa maturité lorsque chaque croyant est bien fondé dans sa foi, il y a l'unité de sa foi, il est bien fondé dans son caractère, dans sa conduite, mais aussi dans sa connaissance de Christ, dans son intimité avec Christ, de manière à ce qu'il puisse le refléter dans son quotidien. Nous sommes responsables les uns des autres. Dieu cherche qu'avec les dons qu'il a investis à l'Église, nous puissions travailler ensemble pour arriver à que chacun des personnes qui sont ici, qui fréquentent l'Église, soit fondé dans sa foi, ait une conduite qui honore le Seigneur et qui arrive à une communion toujours de plus en plus intime avec le Seigneur. Ça veut dire que je dois m'intéresser les uns aux autres. J'ai reçu un don. Dieu m'a placé dans l'Église et le but de ça, c'est que tout le monde arrive à l'unité de la foi puis de la connaissance de Christ qui a une maturité. J'ai besoin de prendre soin les uns des autres. J'ai besoin de veiller à ce que mon frère, ma sœur grandissent dans sa foi, grandissent dans la maturité, de sorte qu'ils ne sont plus des enfants, mais qu'ils soient à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude que nous vient de Christ. C'est comme ça que la Bible du Sommeur le traduit. Afin qu'on soit pas des enfants, qu'on ne soit pas flottant, qu'on ne soit pas facilement trompé puis détourné de la vérité. Une Église est mature lorsqu'elle expérimente parmi les croyants l'unité de la foi, une communion intime avec Dieu. Une Église est mature, il nous dit, quand elle a obtenu aussi une stabilité qui est doctrinale, dans le verset 14. Nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais qu'on professe la vérité, qu'il y ait une stabilité doctrinale, que les croyants dans l'Église disent la vérité, que les croyants dans l'Église vivent la vérité et qu'elles le vivent par le moyen de l'amour. C'est le terme qui va revenir plus tard aussi, mais qui est dans ces appels de base, dans l'amour. La stabilité doctrinale. L'Église, à ce moment-là, elle devient, comme Timothée dit, la colonne de la vérité. Les gens voient l'Église et disent, ça c'est vrai et c'est ça que je veux. La colonne est l'appui de la vérité. La vérité devient stable, la vérité devient conquérante. Les chrétiens deviennent affermis. Ils ne sont plus des girouettes spirituelles qui tournent à tout vent de doctrine, à la merci de trompeurs habiles. Comment est-ce que je trouve comment est-ce qu'on découvre la maturité dans l'Église? L'unité de la foi, l'unité de l'intimité avec Christ, la stabilité doctrinale. Et finalement, dans le verset 15, l'édification mutuelle. Nous croîtrons à tous égards, tous ensemble, nous croîtrons en celui qui est le chef en Christ. Parce que c'est de lui, puis grâce à tous les liens, que tout le corps, encore une fois, chaque partie du corps, bien coordonnée, formant un seul assemblage, tire son accroissement. L'appel à la maturité, l'appel à l'édification mutuelle. Attaché solidement au cèpe, attaché à Christ. On est appelé à contribuer avec amour, puis dans l'amour, à la croissance de tous, à la croissance de l'ensemble. Et l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Christ dans la vie de l'Église va être manifestée quand il y a de la coordination, il nous mentionne, de tous les liens. Lorsqu'il y a de la solidité dans tout l'assemblage, lorsqu'il y a une croissance selon l'apport que chacun apporte, lorsqu'il y a de l'édification dans l'amour, comme un corps. Chacun doit être impliqué et l'objectif du corps, c'est qu'il grandisse et qu'il soit bien coordonné et qu'il soit capable de performer à son meilleur. Le texte, malgré ces grandes phrases, nous dit « Dieu a investi énormément en chacun de nous. » Et en retour, il s'attend à ce que nous manifestions notre gratitude en répondant à trois appels. Un appel à l'unité de la foi. Un appel au service, à l'engagement les uns envers les autres. Et un appel à rechercher ensemble la maturité. J'aime un chant qui s'appelle « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suivant. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. » Mais la voix du Seigneur nous appelle à cette unité dans le corps de Christ. Elle nous appelle à un engagement personnel au service de la communauté chrétienne. Et elle nous appelle aussi à l'édification mutuelle vers la maturité. Elle nous appelle. Dieu a tellement investi en nous qu'il nous appelle à l'excellence. Ça me fait rire des fois d'entendre l'humoriste Martin Matt qui a un show qui s'appelle « Condamné à l'excellence ». Je dis, bien ça c'est l'Église. C'est l'Église qui est condamnée à l'excellence. Parce que Dieu a tellement investi dedans. L'Esprit de Dieu habite en chacun d'eux. Ils peuvent expérimenter la personne de Jésus-Christ, toutes les dimensions de l'amour. Et par conséquent, ils sont appelés à l'excellence. Ils sont appelés à l'unité, ils sont appelés à l'engagement à servir, ils sont appelés à l'édification mutuelle, à la maturité. Comment est-ce que ça manifeste, ma participation à l'unité, au service, à la maturité du corps de Christ? Est-ce que je me pose cette question-là? Est-ce qu'on se pose cette question-là? Seigneur, tu as tellement investi en moi, tu m'as placé dans une famille, dans le corps de Christ, dans l'Église locale. Comment est-ce qu'elle se manifeste, mon appel, ma réponse à ton appel, à l'unité, au service, à la recherche de l'édification mutuelle? Est-ce que je suis en train de contribuer positivement au plan de Dieu pour son Église? Et je trouve particulièrement dans ces moments de transition avec l'Église, où l'Église va avoir besoin de se ressaisir, de voir ensemble quels sont les éléments que Dieu nous a donnés pour continuer à avoir une vision qui est conquérante, qui continue de grandir. On va avoir besoin de chacun qui dit, hey, Dieu m'a équipé, quelle est ma part maintenant dans le ministère? Quelle est ma part dans l'édification? Quelle est ma part dans l'unité de la foi? Dieu nous appelle alors à marcher d'une manière digne de l'appel qu'il nous a lancé, parce qu'il a tellement investi en nous. Il ne voudrait pas qu'on soit des machines distributrices dans lesquelles il a investi tellement et puis qu'il ne ressort rien. La voix du Seigneur m'appelle, la voix du Seigneur nous appelle, la voix du Seigneur t'appelle, toi, chacun d'entre vous. Répondons-lui. Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Que ce soit notre prière. Oh Seigneur, merci pour ton investissement dans nos vies. Et Seigneur, on veut juste te prier que nous puissions répondre, marcher d'une manière digne de cet appel-là. En gardant l'unité les uns envers les autres dans la foi. En mettant au service les uns des autres le don que tu as mis en nous, ou si nous sommes une personne don, de servir l'autre où tu nous as placés. Et Seigneur Dieu, qu'on puisse être appelé à rechercher l'excellence, à s'édifier mutuellement, à rechercher la maturité, la croissance de tout le corps. Parce que, Seigneur, c'est toi qui vis en nous. Et c'est toi qui veux manifester ta grandeur à travers nos vies, ta puissance, ton amour, ta grâce. Que nous puissions être, Seigneur, des instruments de ta grâce. Puissions-nous manifester les résultats de ton appel dans nos vies. Et nous te prions au nom de Jésus pour sa gloire à lui. Amen. J'invite David et nous inviter à chanter ce chant-là, justement, « La voix du Seigneur m'appelle ». Prends ta croix, viens suivre-moi. Je réponds, « Sauveur fidèle, me voici. » Que ce soit notre désir.